Nous allons maintenant faire connaissance avec Christophe Alain. C'est un clairvoyant français. Et j'ai découvert Christophe Alain et son histoire sur des enregistrements audio sur le site plusconscient.net. Alors ça a été, après cet enregistrement, vraiment le moment où je me suis dit, paf, tout s'est éclairci dans mon esprit, selon la célèbre phrase de Louis de Funès dans le film Oscar. C'était vraiment la révélation. C'est vraiment pendant cet enregistrement qu'il a fait des liens avec des pièces de puzzle que j'avais entre les mains, mais dont je voyais pas encore toute la cohérence qu'il pouvait y avoir en tout ça. Et là, il met toutes les pièces dans le bon ordre. Puis tu dis, waouh, alors ça, c'est la nouvelle vision du monde, ça tout. Et c'est grâce à ça que j'ai aussi pu refaire cet article pour structurer toutes les idées, pour mettre ensemble. Avant, j'avais plein d'éléments tout à fait épars, et là, c'est vraiment, vraiment un tout, et vraiment un truc cohérent. Du coup, alors, sur mon site web martouf.ch, on peut retrouver aussi une partie de texte résumé d'un extrait de très intense d'une interview sur la radio Ici et Maintenant. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'éveil du troisième œil. Et c'est ce livre aussi que j'ai lu, le deuxième tome, le troisième tome. Il en a aussi écrit plusieurs et à chaque fois, mais tout un monde incroyable. C'est vraiment, ça vaut la peine de le lire. Mais je pense qu'il faut avoir d'abord passé par les étapes précédentes, sinon on risque de tout rejeter en bloc et pas comprendre. C'est vraiment une progression, par étapes, tellement c'est différent. Alors, j'ai réécouté des enregistrements de radio avec le Christophe Alain. C'est à peu près 12 heures d'enregistrement que j'ai dû écouter, je pense, et je les ai repassés plusieurs fois en boucle, donc ça me fait vraiment beaucoup d'heures. Donc, pour expliquer l'histoire de ce monsieur, Christophe Alain était, dans son enfance et son adolescence, à la limite d'être autiste, un peu asocial. Alors il dit qu'un autiste, c'est une personne qui n'a pas d'ego suffisant pour se créer sa propre identité. C'est toujours ces notions de conscience. Sa conscience se mélange avec le monde, il voit le monde tel qu'il est, un monde où tout est lié, un monde où il n'y a pas moi et le monde extérieur. C'est tout. Et quand il est dans une pièce, il peut en même temps être lui, la pièce, les objets dedans, les autres gens qu'il croise, et obtenir directement des informations sur tous ces trucs-là. Et ça, c'est un peu ce qui permet d'expliquer le syndrome du savant. Le syndrome du savant, c'est le très connu syndrome des autistes, du genre de celui qui est dans le film Rain Man. Rain Man. Il y a une boîte d'allumettes qui tombe, paf, il sait exactement combien il y a d'allumettes maintenant tout de suite. Alors que pour une personne normale, il faudrait les compter, les trier et tout. Alors ben là, en fait, vu que sa conscience est partout, eh ben il a cette connaissance qui vient instantanément de connaître le nombre d'allumettes, vu qu'il est en même temps les allumettes. Sa conscience est les allumettes. Donc c'est ce qu'il essaie d'expliquer. Mais alors, ça pose d'autres problèmes, parce que n'ayant pas d'ego, on ne peut pas avoir de personnalité. Et du coup, ben, on ne peut pas avoir de relations sociales avec les gens. Il faut avoir une personnalité pour discuter de personne à personne. Si on est déjà le tout, on n'arrive pas à discuter avec soi-même. Alors, c'est vers 23 ans que Christophe Alain, il a eu une expérience qui était tout à fait marquante. Sa mère l'avait amené dans des cours de yoga, deux, trois cours, pas beaucoup, mais il avait appris un truc. C'était fixer un point dans une méditation, puis pas bouger. Et il a trouvé ça rigolo. Et pendant à peu près 6 mois, tous les soirs, il s'est amusé à se coucher sur son lit et observer une tache au plafond, immobile. Et puis, ben, gentiment, si vous essayez de faire ça, ça fait un peu pareil. Alors, blou, 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 blou. Ben, vas-y, essaye alors. Hein. Tu te poses, tu ouvres les yeux, puis tu les bouges plus, puis tu fixes un truc. Au bout d'un moment, tu commences à avoir quelques expériences bizarres, des formes psychédéliques. C'est une sorte d'état modifié de conscience aussi. Et un jour, hein, au bout de 6 mois, là, il y a une énorme lumière qui lui est apparue, la lumière la plus brillante qu'il ait jamais vue, 1000 soleils réunis d'un coup, paf! Ah! Que se passe-t-il? Et depuis ce jour-là, il a commencé à avoir sa conscience qui s'élargit. Il a tendance à sentir les gens et les objets à quelques mètres de lui. Puis c'est comme s'il n'avait pas besoin de les toucher physiquement, mais qu'il les touchait un peu plus loin. Puis s'est dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Il m'arrive vraiment des trucs, puis la vision qui change un peu. Comme il n'était pas du tout de culture religieuse, dans une famille vraiment pas du tout religieuse, mais plutôt dans une famille de médecins, il a dit qu'il est allé voir un psy. Puis il s'est dit, bah, je deviens complètement fou, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le psy il lui a dit, alors je peux vraiment rien faire pour vous, c'est tout à fait normal, vous n'avez pas de dédoublement de personnalité, vous n'avez pas de trucs bizarres, je connais pas, je peux rien faire. Et la seule chose qu'il a remarqué, c'est que Christophe Alain arrivait à lire dans ses pensées. Encore une histoire assez folle. Il lui sortait une phrase, et puis, ah, mais c'est ce que j'allais dire. Ah, c'est qui ce gars, c'est quoi? Alors il s'est mis un peu à flipper, le psy, puis pouf, et ben il n'a rien pu faire. Alors Christophe Alain, ben, il s'est mis à décrire, il a créé un blog sur lequel il a écrit des articles pour lui dire au jour le jour ce qui lui arrivait comme expérience bizarre. Et petit à petit, ben, ce blog maintenant a été repris pour en faire ses livres, donc Éveil, Journal d'un éveil du troisième œil, et la suite. Alors il explique vraiment des choses très très pratiques, et c'est là que c'est intéressant, c'est pas des vagues concepts, c'est pas des théories, c'est vraiment au jour le jour, il explique cette expérience, comment ça marche, ce que ça m'a fait, toutes les bizarreries qui me tombent dessus. Et au fil du temps, on comprend un peu son évolution et comment il fonctionne, comment le monde fonctionne, comment l'humain fonctionne. Et c'est vraiment passionnant. Alors, il décrit un monde où il comprend de mieux en mieux aussi ce qui y arrive. Parce qu'il passe d'un comportement limite autiste où il disait, moi, parler avec plus de 2 personnes, c'est pas possible, à maintenant organiser des cours et il fait un peu le chaman dans la forêt avec d'autres gens et puis. Il est en guillemets thérapeute ou quelque chose comme ça. Il est dans le bien-être. Et maintenant, il fait des conférences, il arrive à parler à plein de gens. Il s'est vraiment construit une identité qu'il n'avait pas au début. Donc, il a réussi à jouer le rôle de l'humain, comme il l'explique. Il fait le jeu, il fait comme les autres. Mais il le fait de manière consciente, que tout un chacun fait de manière inconsciente. Donc, il arrive à expliquer comment fonctionne le monde. Et il a des références toujours très très concrètes, très très intéressantes. Il nous dit, le monde, c'est proche du film Inception. C'est la même chose que Inception. Ce film avec Leonardo DiCaprio où on se balade de rêve en rêve, dans des rêves imbriqués. La réalité, c'est un rêve imbriqué dans un rêve, lui-même dans un rêve, et encore dans un rêve. Et on peut comprendre toute cette imbrication de réalité en déconstruisant toutes nos croyances, toutes nos imbrications de réalité les unes dans les autres. Alors, bon, ben d'accord. Est-ce que le but, c'est de sortir de tous ces rêves, comme dans Inception, puis de voir la vraie réalité? Alors, Christophe Alain lui dit, non, 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 c'est pas vraiment le but. Le but, c'est plutôt de déconstruire tes propres croyances, tes propres structures qui font ce que tu es, ce que tu es. Et puis, tu dois comprendre le but de ta propre vie. Tu es venu là pour expérimenter quelque chose et tu dois expérimenter ceci. Et il faut comprendre ce que tu es venu expérimenter. Quel est ton métier profond, ta vocation dans cette vie? Donc, on revient à Patrick Vivray qui nous expliquait ben, il faut avoir un métier. Le métier, c'est une vocation et pas un job qui t'occupe dans la vie. Mais vraiment, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et pas dans la vie? Donc tout ça, c'est encore cohérent, c'est ça qui est incroyable. Alors Christophe Alain, il explique que nous sommes des êtres multidimensionnels. qu'on se conçoit une vie dans une dimension et qu'on s'incarne dans cette vie pour expérimenter un concept qu'on a décrit, qu'on a inventé dans une autre dimension. Ce genre de choses assez compliqué à comprendre, très conceptuel. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de maîtres spirituels qui ont essayé de décrire ça avec mille manières différentes. Et lui, il arrive avec des métaphores très concrètes qu'on verra par la suite, que j'y reviendrai. C'est un informaticien, il utilise beaucoup de métaphores informatiques. Moi, ça me parle en tout cas, étant aussi développeur web dans l'informatique. Et je comprends parfaitement ce qu'il dit, et c'est clair et limpide. Alors que dans des fois des bouquins de spiritualité, mais on pige rien parce qu'ils utilisent des mots bizarres, qu'on sait même pas vraiment ce que ça représente, pas capable de faire des métaphores non plus, tandis que là, c'est clair. Alors Christophe Alain nous explique que on a une part absolue de nous-mêmes, qui est une sorte de scénariste de film de notre vie, puis une part relative de nous-mêmes, qui est le héros du film. Alors, dans tous les gens qui disent oui, c'est le destin, c'est ton destin, tout est écrit, ben oui, c'est vrai. On a le scénariste qui a décrit un scénario, et le héros du film joue le scénario. Et il n'a aucune échappatoire. La part relative, elle est obligée de suivre et de faire ça. Mais en même temps, il y a les autres gens qui disent non, 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 le destin, ça n'existe pas, on a toujours le libre arbitre, on peut toujours tout faire. On peut choisir. On n'est pas obligé de nous imposer le futur, on ne peut pas le prévoir parce qu'il change tout le temps. Et alors là, Christophe Alain nous explique que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Nous sommes en même temps la part relative et la part absolue. Donc c'est-à-dire que nous sommes en même temps le héros du film qui est obligé de suivre un destin et en même temps le scénariste qui choisit quel est ce destin, qui a le libre arbitre. Et c'est l'œuf et la poule, il dit toujours, il adore dire, qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la poule? Eh ben c'est les deux en même temps. Il n'y a pas, c'est un faux problème, l'œuf et la poule. C'est les deux qui arrivent en même temps. Parce qu'en fait, il y a toute une notion temporelle. Le temps n'existe pas. Le temps n'est qu'une illusion. Il n'est pas linéaire en dehors du film, en dehors de la réalité qu'on expérimente. Le temps, il n'est pas du tout linéaire. Il peut avoir des sauts. Il est autrement. Et c'est la dualité et la non-dualité, comme certains disent parfois dans des bouquins plus spirituels. Et qu'on n'arrête pas en fait de jongler entre ces deux parts. On est à un moment un, à un moment l'autre, on change, et puis finalement, l'un interagit avec l'autre, le temps n'existe pas, et le temps existe. Donc on arrive à faire des choses de manière qui ne prennent pas de temps. Et puis pour changer des choses qui prennent du temps, mais qui ne refont pas le même temps. C'est très rigolo, ça brouille tout, on n'est plus où on s'est, on est complètement paumé là. Alors c'est là qu'on a besoin de métaphores informatiques. Alors Christophe Alain, n'ayant aucune possibilité de parler avec des gens, n'étant pas du tout attiré par les humains, comme beaucoup d'autistes, il s'est tourné vers l'informatique, les ordinateurs. Et il est devenu informaticien, programmeur. Et donc là, il a une métaphore avec le mental, notre cerveau, en fait, notre ego. Le mental, c'est la carte graphique de l'ordinateur. C'est en fait ce qui fige la réalité pour qu'on puisse l'appréhender. Donc, dans un ordinateur, comment ça fonctionne? On a des données qui circulent dans tous les sens, mais pour qu'on puisse les voir, nous, on a une carte graphique qui va figer à un moment précis, à un endroit précis, et qui va l'afficher sur un écran sous forme de pixels alignés. Et ça, c'est une image, un instantané, plouc. La base de données dessous, elle ressemble à rien à ça. Le processeur, il traite ça tout à fait différemment. Mais là, nous, on voit en quelque chose qui est la carte graphique, qui est le résultat d'un calcul qui va nous permettre d'afficher toutes ces informations superposées pour avoir une vision des choses à un moment donné. Donc, Le mental, il est là pour figer les choses, figer une forme, et essayer de retrouver une forme, pour créer des structures qui nous permettent d'appréhender. Par exemple, quand j'ai écrit cet article, quand j'ai essayé d'appréhender tout ce que je raconte maintenant, j'avais besoin d'avoir plein d'idées. Alors j'ai lu plein de choses, plein de bouquins, mais au bout d'un moment, je dois bien écrire un livre, un truc qui est linéaire, il y a une forme, on est obligé d'écrire de manière linéaire. Alors il faut mettre toutes les idées en forme, puis essayer de trouver une structure. Je fais une table des matières, je vais dans une suite logique, et puis j'amène du sens, du lien, d'une page à une autre, d'un sujet à un autre, pour avoir un fil logique, pour qu'on puisse comprendre. Mais c'est très linéaire, c'est une contrainte, parce que nous sommes faits pour comprendre comme ça. Alors qu'en fait, dessous, toutes les informations, je les avais dans mon cerveau, sous une autre forme, liées par les diagrammes heuristiques, avec plein de petites bulles partout, plein d'idées qui se lient entre elles, mais aucun chemin linéaire. J'aurais pu présenter la même chose, mais d'une autre manière. Donc du coup, le mental, il est là pour créer une structure. Et puis, quand on expérimente un monde dans lequel, comme on est en train de le faire de plus en plus, ou un monde où le mental a le pouvoir, tout est intellectuel, tout est mental, et l'émotion, le reste, le sensitif, on passe au second plan. Quand c'est le cerveau gauche qui pilote tout, quand c'est le mental, ben on a tendance à créer des structures partout. Alors nous créons des égrégores dans l'ésotérisme, ça s'appelle comme ça aussi. Alors on va créer des états qui vont créer des lois, qui vont créer des règles, qui vont créer des castes, des clans, des familles, avec des règles à l'intérieur des familles. Et puis on doit choisir, on ne peut pas se reproduire avec n'importe qui parce qu'on n'est pas de la même caste, on n'est pas du même clan, on n'est pas de la même famille, on n'est pas de même type de métier. Alors là, on a un arsenal compliqué de règles. Mais tout ça, il semble qu'on est dans une ère qui change, où toutes les structures comme ça sont en train de voler en éclats. Alors on est en train de se débarrasser des vieux schémas familiaux qui nous empêchent de sortir de la famille. Alors par exemple, ben Christophe Alain disait dans un interview, là, je l'entendais, il disait alors, ben maintenant, cette année, c'est la famille. Par exemple, on fait tout sauter les trucs, l'héritage de la famille, on s'en fiche. Et pour confirmer ça, tout d'un coup, je vois dans l'activité, début de cette année, en Suisse, nouvelle législation, les noms de famille, POC, on s'en fiche, nouvelle législation sur les noms de famille, on peut garder son nom de famille, on peut prendre le nom de famille de son mari, de sa femme, on change tout. Paf. Il n'y a plus d'hérédité. Alors les généalogistes, ils sautent au plafond parce qu'ils trouvent que ça va être compliqué si c'est plus le père qui donne son nom aux enfants, on ne retrouvera plus qui est qui. Et ça, c'est des notions de l'ancien temps, d'après ce que nous explique Christophe Alain. On fait un bond dans l'évolution collective humaine maintenant, tout de suite. Et c'est pour ça aussi qu'on rencontre de plus en plus ces bizarreries, qu'on rencontre de plus en plus de clairvoyants, c'est qu'il y a toute une partie du monde qui est en train de changer. On accélère, c'est un peu l'apocalypse, dans le vrai sens des mots grecs, ça signifie la levée du voile. Donc on est au l'endroit où on lève le rideau, puis on voit ce qu'il y a derrière, on change complètement. Donc c'est une sorte de fin du monde, mais c'est un nouveau monde qui commence aussi. Alors, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, si tu as tout compris. En tout cas, je te recommande très très vivement d'écouter Christophe Alain. C'est pas toujours simple de comprendre parce qu'il parle très très vite. Il est marseillais et parle vite, vite, vite. Et c'est dense. Puis tu es en train de t'imaginer que ce que tu es en train de faire. Puis tu es déjà passé de plus loin. Puis du coup, tu n'as pas tout capté. Et puis, faut les passer au ralenti, phrase par phrase, les réécouter. Et chaque fois, je me dis que j'ai loupé des trucs. Chaque fois que je les réécoute, je découvre une nouvelle manière de faire. Une nouvelle manière de ce qu'il a décrit que j'avais pas compris. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'à chaque enregistrement, c'est une nouvelle réalité. Chaque fois que je réécoute un truc, c'est une nouvelle réalité. J'ai beau réécouter les mêmes tout le temps, j'apprends toujours quelque chose. C'est un livre et des enregistrements audio sans fin. Il y a tout dedans. Donc effectivement, il y a des enregistrements audio qui sont sur mon site web en lien. Il y a aussi ces livres qu'on peut acheter. Journal d'un éveil du troisième œil, tome 1 et tome 2. Et puis Vacuité, contemplation et jouissance de la matière. Et il semble qu'il y en a un qui va sortir tout bientôt. Encore un. Alors, il y a des choses, par exemple, que je n'avais pas captées au premier abord, qui sont venues que plus tard. Par exemple, à un moment donné, il nous parle de nourriture pranique. Bon, respiranisme, nourriture pranique, moi ça me dit rien du tout, je ne connais strictement rien. Tout ça signifie, nous ne sommes pas obligés de manger pour vivre. Ça paraît complètement fou, ça pourrait résoudre tous les problèmes de faim dans le monde. Finalement, on n'a pas besoin de manger. Incroyable. Faut passer de l'ère de la survie où on avait besoin de manger à l'ère de la vie où on n'a pas besoin de manger. C'est un fonctionnement différent. Ça, je ne l'ai pas du tout vu, hein, pas du tout écouté. À la première écoute que j'ai fait, même à la deuxième ou à la troisième, c'est que je pense qu'à la quatrième écoute que j'ai écouté, puis je me suis dit, mais il parle de ça, mais je n'avais pas capté du tout. Et ça m'est venu parce que j'ai rencontré des gens qui ont fait un stage de nourriture en conscience, comme ils appellent ça, la nourriture pranique, où on se nourrit de prana, on se nourrit plus de l'autre, mais on se nourrit de la relation à l'autre. Alors c'est ce qu'explique Christophe Alain, et j'ai beaucoup mieux compris la démarche, et beaucoup mieux. Ça paraît complètement fou, mais en creusant le sujet, effectivement, il y a plein de gens dans le monde qui disent qu'ils ne mangent pas. Il y en a même qui disent qu'ils ne boivent plus. Mais ils sont toujours en vie. Il y a un yogi indien qui dit que ça fait 70 ans qu'il n'a pas mangé. Et effectivement, l'armée indienne fait des tests sur ce monsieur pour savoir si c'est vrai. Et ils en arrivent à la conclusion qu'effectivement, il y a quand même, s'il n'a pas un fonctionnement comme n'importe qui. Qu'il arrive à se nourrir. Et ça, bon, on dit c'est en Inde et tout. Mais, voilà, j'ai rencontré des gens qui font la même expérience. Et dans les hôpitaux en Suisse, il y a aussi une expérience qui a été faite à Berne, de gens comme ça. On n'est pas en Inde. Et là, alors, la réalité dépasse la fiction complètement. Alors, ben, là, Christophe Alain explique clairement un peu comment ça marche, pourquoi. Et c'est ce genre de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est juste incroyable. Alors, il explique que, en fait, c'est une question d'autorité et d'autonomie. Qu'on a besoin de devenir autonome au bout d'un moment, et qu'au début, dans les phases de l'évolution, à la naissance, on se nourrit de sa mère. Donc on se nourrit en tant que fœtus directement par le cordon ombilical, on se nourrit de sa mère, de la même chose. Et ensuite, on se sépare un petit peu, à la naissance, on se nourrit du sein de sa mère. Puis après, on se nourrit de l'extérieur, des choses, des animaux, de la chasse, des plantes. Puis ensuite, on arrive encore à évoluer et devenir autonome. On n'est pas obligé de se nourrir de l'autre, mais on peut se nourrir de la relation à l'autre. Donc c'est finalement cette relation. Donc les gens qui expliquent, ils disaient que c'est très difficile de faire des tests en hôpital pour mesurer tout ça, parce que dans l'hôpital, c'est un environnement qui n'est pas agréable du tout. On ne peut pas se nourrir de la relation des autres parce que les autres sont tous malades. Alors, il faut être bien, il faut être dans la nature, il faut être au soleil, il faut être avec la vie, avec quelque chose qui va. Et puis avec ça, c'est le prana, c'est l'énergie ambiante qui circule, qui permet de se nourrir. Donc, il y a des fois des expériences dans des hôpitaux qui loupent, où les gens n'arrivent pas à vivre correctement, ils ne se sentent pas bien. Alors qu'à l'extérieur ou chez eux, ils se vivent bien et puis ils mangent pas. Mais quand ils vont dans l'hôpital, ça marche plus. Et tout ça, ben en fait, ça s'explique parce que on vit de la relation à l'autre. Et en fait, c'est la même chose dans la conception. En vivant de la mère, on mange sa mère, on vit, on boit, au sein de sa mère. Et en fait, ben c'est aussi la relation à la terre-mère. On se nourrit de notre terre-mère. Des produits de la nature. Et puis au bout d'un moment, ben, il faut changer. Faut avoir compris que on a besoin de ce lien et qu'il ne faut pas qu'on commence à détruire la planète, détruire la vie sur cette planète, mais qu'au bout d'un moment, on peut juste avoir une relation avec et se nourrir de cette relation. C'est ça qui est intéressant. C'est exactement ça, comme dans un tout autre domaine. La valeur d'un site web, d'un réseau social, elle est là parce qu'il y a des interactions entre les gens. Elle n'est pas là parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des profils, il y a des octets. Elle est là parce que les gens interagissent. Si sur un réseau social, si sur Facebook, les gens n'interagissent plus, ça ne vaut rien. Donc c'est ça qui nourrit en fait tout ce système. Et puis là, c'est pareil, pour se nourrir nous-mêmes, on n'a pas besoin de manger les autres. Complètement fou cette histoire. Alors, on vit dans ce monde et là on comprend plein de choses. J'ai essayé de réfléchir à tout ce qui est, tout ce que Christophe Alain nous explique, et puis en lien avec les histoires de Celtes aussi, et puis dans quel monde on vit finalement. Là, je me suis vraiment posé la question. Alors Christophe Alain nous parle de Inception, des multiples imbrications, de rêves. Et puis, ça commençait à me titiller cette histoire. Effectivement, les humains adorent créer des histoires. De tout temps, on a créé des mondes virtuels, avec tous les moyens qu'on avait à disposition. Les hommes avec des peaux de bête, quand ils se mettaient autour du feu et puis qu'ils racontaient des contes, des histoires. Mais ils se racontaient des histoires, ils faisaient vivre des personnages imaginaires dans des mondes imaginaires. C'est un univers virtuel, un conte autour du feu. Jusqu'aux super productions hollywoodiennes où on crée un film dans lequel on met des personnages qui vivent. Et on crée un univers, on le fait vivre. C'est la même chose. Donc, entre Hollywood et les hommes en peau de bête dans les cavernes, ça n'a pas changé. On a toujours cette envie de créer des mondes. Au milieu, il y a eu les livres, il y a les pièces de théâtre, et tout ce système. Et maintenant, on en arrive à une période où c'est le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est incroyable. Et avec Internet, ces dernières années, on a encore développé des jeux vidéo en réseau. Et on a des univers entiers qui vivent par eux-mêmes, qui s'arrêtent plus. World of Warcraft, un des plus connus. WoW, comme on dit. Il y a des milliers de joueurs qui viennent, ils incarnent des personnages et ils jouent là-dessus. Ils ont envie de jouer, d'expérimenter des trucs. Alors, tout d'un coup, on peut faire un parallèle avec tout ce que Christophe Alain explique. Les personnages du jeu. Donc, les personnages qu'on habille avec une épée, un machin, eux, ils meurent, ils se tapent dessus, ils meurent, poum. Mais le joueur qui est derrière son ordinateur, qui pilote le personnage, lui, il ne meurt pas, jamais. C'est pas du tout lié à ça. Lui, il recommence une nouvelle partie. Il change d'incarnation, il se réincarne. On a toute une notion de réincarnation. Ça viendra plus tard. On en parlera après. La réincarnation, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la réalité de la chose? Et il veut jouer différents rôles, un joueur. Je vais jouer sur WoW, je veux expérimenter d'être le méchant, d'être le gentil. Je sais pas, je vais essayer une fois d'être pote avec tout le monde, puis une fois j'ai décidé non, je veux avoir aucun ami, une fois je vais essayer de faire que des trucs bien, une fois je vais faire que des trucs méchants, une fois je vais essayer de faire cette même quête, mais d'une autre manière. C'est toujours des expériences, et en fait, chaque fois, le joueur est venu incarner un rôle précis que sa partie, c'est sa partie, son absolu, comme disait la part absolue, comme le disait Christophe Alain, qui est en fait le joueur derrière son ordinateur, qui incarne le rôle, il essaye à travers son rôle, donc le rôle est venu jouer une expérience en particulier. Alors, c'est encore l'imbrication fractale du monde, pour revenir aussi sur une toute première conférence du monde fractal, pour le comprendre vraiment. On est encore dans une espèce d'imbrication fractale, des couches supplémentaires de rêves. Puis dans ces rêves, on invente encore des couches de rêves et on est toujours dans cette même vision. Et alors la conclusion que j'en ai, c'est totalement fou, c'est qu'on est dans un jeu vidéo. On est là pour expérimenter, pour s'amuser, pour jouir de l'existence. C'est bien le titre du livre de Christophe Alain, Jouir de la matière. On est là. Et on expérimente, expérimenter la matière, c'est chouette. On est là, on peut jouer, et puis si les jeux vidéo sont populaires, c'est effectivement que ça nous rappelle quelque chose, puis qu'on a envie d'expérimenter, on y passerait des heures. Alors en creusant encore cette métaphore du jeu vidéo, je me dis, et alors, les élémentaux, tous ces nains de jardin, tous ces elfes, c'est quoi? Alors eux, Christophe Alain, qui lui se refuse à donner une forme de nain, de sylphe, d'elfe, dit c'est des énergies, c'est des formes, c'est des entités, mais on ne les décrit pas, parce que ça sert à rien, parce que suivant à quel niveau on regarde, c'est pas la même chose. Ok. Alors, on peut se dire, la seule chose qu'il nous dit précisément, c'est que les humains ont le libre arbitre, mais les élémentaux n'ont pas le libre arbitre. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas choisir, qu'on leur pose des questions et ils doivent y répondre. Et du coup, paf, tout s'éclaircit dans mon esprit. Encore une fois, ce sont des PNJ, comme on dit, des personnages non joueurs, connus de tous les gens qui font du jeu vidéo. Ce sont des personnages, mais eux ne sont pas incarnés par des joueurs derrière leur ordinateur. C'est des programmes figurants. C'est des aides de l'univers pour faire des services. Pour faire une quête, par exemple, il va t'aider, il va te fournir un objet à un moment donné. Ou alors des fois il simule un adversaire contre qui tu dois combattre, mais qui est géré par l'ordinateur, qui n'a en fait pas de vrai joueur derrière, qui a une expérience à faire. Lui, il n'a pas d'expérience à faire. Lui, il a juste un rôle à jouer. Et tout à fait, c'est exactement ça. Les élémentaux ont ce rôle, exactement, dans ce que les géobiologues nous disent. J'ai une copine qui est géobiologue avec qui on peut aller faire des balades dans la forêt. Elle nous dit, là, il y en a un, il y a un troll, un gnome. On peut leur demander des choses. On peut aller voir les arbres, demander au faune de l'arbre. Salut, alors j'aimerais que le faune de l'arbre soit situé là, et puis je peux l'interroger. Et je peux savoir toute l'histoire de l'arbre, comprendre tout ça. C'est une interface de communication avec l'arbre. C'est exactement ce que les géobiologues avec qui je suis allé me balader dans la forêt du Creux du Vent nous expliquaient comment il fallait faire. Alors c'est très déroutant d'aller parler aux arbres, d'aller parler aux champignons, aux plantes, mais ça existe et j'ai une copine qui fait ça, qui écrit des bouquins, la Joëlle Chautemps, qui explique le guide des lieux enchantés de Suisse romande pour aller voir tous ces êtres élémentaux et aller leur parler et développer sa sensibilité, mais finalement c'est comme être dans le jeu vidéo. Aller se balader, et puis on peut aller interroger par son interface utilisateur, avoir toutes les informations sur un objet qui se trouve dans le décor, comme ça. Alors, waouh, tout d'un coup, je vois le parallèle, ça me semble toujours cohérent, c'est waouh, c'est vraiment le... On est dans un monde virtuel, je dis waouh, qu'est-ce que ça a comme implication? Ça fait vraiment peur. Alors, c'est la carte graphique, le mental, c'est lui qui met en forme la réalité qu'on voit à partir de la base de données qui se trouve derrière. Puis, du coup, alors, avec mes connaissances d'informatique, moi je suis développeur web, je fais souvent ce genre de choses. On a des bases de données, on les gère, on met en forme l'information pour en faire une page web. Alors, derrière la carte graphique, derrière le mental, il y a quoi? Derrière ce truc qui fige notre pensée. Et puis on observe que la physique quantique, ben, elle décrit à peu près la même chose que le fonctionnement de l'ordinateur. L'observateur est indispensable pour pouvoir créer la réalité. S'il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de réalité. Ça n'existe pas. Le monde n'est créé que s'il est observé. C'est ce que dit la physique quantique. C'est le principe de Heisenberg. Toutes les possibilités sont offertes. Tout se déroule en simultané. Et si tu observes le phénomène, il prend forme avec certaines valeurs. C'est l'histoire du chat de Schrödinger qui est mort et vivant à la fois. On ne sait pas tant qu'on n'a pas observé. Le principe d'Heisenberg nous dit qu'on ne peut pas capter plusieurs informations différentes sur une particule. On ne peut capter qu'une information parce que ça nous crée un état à ce moment-là. Du coup, moi dans mon ordinateur, dans mon jeu vidéo, le monde, il existe, la simulation, là, elle est que sous forme de potentiel, elle est dans une base de données, elle se matérialise que quand il y a un joueur qui arrive dans cette zone du décor que je dois afficher. Donc elle va dans la carte graphique, elle s'affiche seulement à ce moment-là. Le mental crée seulement le décor que quand on le visite. S'il n'est pas vu, il n'existe pas. C'est complètement fou de se dire ça comme ça. Alors, une telle réalité, c'est tout à fait compatible avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce que Christophe Alain nous explique. Il dit qu'on vit chacun dans sa propre réalité, que nous n'avons pas de réalité commune. Qu'est-ce que la vraie réalité? Ça n'existe pas. Chacun vit sa propre expérience de son propre point de vue. Il n'y a pas de réalité commune, mais on est dans un jeu en réseau. Ça veut dire que chacun interagit avec les autres, mais au travers de son propre ordinateur, au travers de sa propre carte graphique. Il y en a un qui est sur un iPhone, puis il y en a un qui est sur un ordinateur surpuissant. On n'a pas tous les mêmes capacités d'affichage, on ne peut pas tous aller à la même vitesse. On ne voit pas le monde de la même manière, on n'a pas la même réalité. Toi, tu vas sur Facebook avec ton application iPhone, moi je vais sur Facebook avec mon navigateur web. On est les deux sur Facebook, mais on n'a pas la même chose. Moi je l'ai en anglais, toi tu l'as en français. On voit la même chose, mais pas la même chose. Pourtant, ça ne nous empêche pas d'interagir. Ça ne nous empêche pas qu'on discute ensemble. On est chacun dans notre propre réalité. Ça, là, ça change vraiment la vision du monde. Quand je me dis que les gens que je rencontre dans la rue, ils vivent dans leur propre réalité, mais que là, on a un moment où les deux, on est dans la même partie du jeu, puis qu'on arrive à interagir ensemble. Ah, c'est génial de penser à ça. On est chacun sur son profil Facebook, puis on discute avec les autres. Mais on voit qu'est-ce qu'on veut bien partager aussi. Et chacun voit des contenus personnalisés. Sur ton propre profil Facebook, tu vois que les choses que tes amis, mais on a tous un réseau d'amis différent. Donc on a tous notre fil d'actualité qui est différent. On ne voit pas la même réalité. Puis après, ben, si je pense à une réalité d'un monde virtuel comme ça, je comprends, c'est exactement le même principe que le jeu Minecraft. Minecraft, c'est un jeu qui est hyper populaire chez des millions d'adolescents. Quand on demande mais c'est quoi le but de jeu, ils disent bon, il n'y a pas de but vraiment, ben, tu vas là-dedans puis tu joues. Tu crées des trucs, tu expérimentes des choses. Et c'est surtout un jeu qui est populaire parce que il y a deux modes. Il y a un mode dans lequel on peut créer là, sa propre réalité, on crée son monde, puis il y a un deuxième mode après, on peut aller se balader dedans. Et alors là, l'explication de Christophe Alain devient claire et limpide, on a une part absolue. On a une part relative, on a le scénariste, mais on a le héros. Et c'est difficile à décrire ça aussi en sous forme de film. On n'arrive pas à comprendre que les deux peuvent interagir. Mais en même temps, quand on explique Minecraft, c'est plus un scénariste, c'est un créateur de monde. Et en plus, c'est le héros, il se balade dedans, mais en même temps, c'est le même. Puis s'il veut changer quelque chose, poc, ben il change de mode, il se remet en mode création. Et puis il se dit, oh, j'ai plus envie de ce personnage, je lui crée une bombe devant, et puis, oh, haha, t'es trop con, t'as soulevé la pierre, puis dessous il y avait des explosifs, paf, TNT. Pff. Ou alors il y a des gens qui s'amusent à créer des pièges pour leurs personnages, puis ils vont dedans. Donc quand on arrive à voir tous les ennuis qu'on a, bah, il faut peut-être que réfléchir, qu'à se dire que demander à sa part absolue qu'elle soit un peu plus cool avec nous, puis qu'on n'expérimente pas que des situations désastreuses. On expérimente ce qui est bien à vivre. Bref, la vie est un jeu. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est apparemment une... La vie est un jeu, joue-le. Joue-le bien, profites-en. Et c'est une citation de Mère Teresa. La vie est un jeu, joue-le. Alors avec ça, on arrive au bout de ce que j'avais à dire. Et pour apprendre... La chenille qui va se transformer en papillon. Alors maintenant, il faut savoir qu'est-ce que je fais avec tout ça. Le papillon, on va expérimenter plein de choses. Là, j'ai encore plein de matières. On va décrire qu'est-ce que la réincarnation, à quoi ça sert, est-ce que ça existe, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment fonctionne le temps, qu'est-ce que c'est vraiment. Alors, si on a un double futur... Après, comment demander à sa part absolue dans toutes les religions, il y a une notion de prière. On peut demander les choses. On demande ça à qui? On demande ça comment? Comment prendre en place toutes ces choses pour essayer d'avoir une vie bonne, une vie meilleure? Qu'est-ce qu'on peut influencer sa propre vie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Et puis, finalement, c'est enseigné dans toutes les religions. On retrouve dans le christianisme... qui est la religion locale dans laquelle j'ai vécu, dans la culture dans laquelle je suis. qu'est-ce qu'on nous dit le christianisme à ce propos? Comment ça marche? Que faire de tout ça? Alors, ça c'est la suite que on verra bientôt, tout de suite, à toutes.